Il est 19h sur le 101.5 de Radio G, l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. C'est l'heure de la case de Seb dans quelques instants. Au programme de ce soir, nous allons partir dans une galaxie très lointaine. Nous allons parler d'utopie, de dystopie. Nous allons faire un retour sur l'AGF. Nous allons parler de sorcières et de chevalerie. Mais tout d'abord, attention, générique.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Bienvenue dans la case de Seb, l'émission qui, par le truchement des ondes radiophoniques, va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb, au micro, nous sommes ensemble pendant une heure. J'espère que nous allons passer un bon moment. Je ne sais pas si vous allez passer un bon moment, mais en tout cas, je sais qu'il fait beau. Déjà, rien que ça, c'est plutôt un beau moment moral. Ce soir, on va faire un petit retour sur des petites choses qui se sont passées il y a quelques temps. On avait fait, hop là, je bouge en même temps, ce qui est un truc que je devrais pas faire en radio. On avait été faire quelques petits enregistrements à Langer Geek Fest. J'ai fait quelques petites interviews. Il y en aura une ce soir dans quelques instants. Et puis, je vais aussi vous diffuser des petits bouts de personnes rencontrées ici et là. Notamment des gens qui nous ont parlé de leur univers de dystopie ou d'utopie favori dans le 9e art. Je vais y arriver décidément à parler correctement ce soir. J'espère qu'on va passer... j'espère qu'on va effectivement passer un bon moment, ce qui va être cool. Ce que je vous propose d'écouter dans un premier temps, c'est l'interview de l'ermite moderne. Alors, si vous ne connaissez pas l'ermite moderne, c'est un petit monsieur chevelu et en peignoir qui vous parle de culture pop avec tout son humour. Je vous laisse le découvrir tout de suite.
Bonjour, enchanté, content d'être là.
Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est l'ermite moderne, en fait ? Qui es-tu ?
Eh ben, l'ermite moderne, c'est un monsieur velu avec un peignoir qui parle de pop culture un peu. Plus concrètement, voilà, l'ermite moderne, en fait, c'est un personnage que j'ai créé vers 2011. C'est une version un peu exagérée de moi et c'est en gros le prétexte pour faire des chroniques sur la pop culture, sur la culture geek et tout ce qui est en rapport finalement avec les mondes imaginaires, le cinéma de genre, le jeu vidéo, les mangas, les comics, la bande dessinée en général, l'animation et tout ce qui me passionne en général. C'est une façon de parler de culture du fun en la prenant sérieux sans se prendre trop au sérieux.
Il y a un côté un peu débridé qui est entièrement assumé.
Oui, bien sûr, hein, c'est très humoristique, c'est très bon enfant, mais on essaye quand même de faire les choses proprement, correctement, on essaye de bien faire ses recherches, de bien faire ses devoirs, on essaye de proposer des réflexions, mais on n'oublie pas que les gags c'est sympa, la complicité avec le public c'est sympa, et comme je le dis... prendre les sujets au sérieux sans se prendre trop au sérieux.
Un bon point. Est-ce que, donc là, la thématique de cette année, c'est utopie-dystopie. Est-ce qu'il y a, parmi tous ces médias, alors, principalement les médias du 9e art pour la radio, des œuvres qui t'ont plus parlé que d'autres ou qui ont plus posé de réflexion que d'autres ?
Tu me demandes par exemple qu'est-ce que ça m'a marqué en termes d'utopie ou de dystopie dans la bande dessinée par exemple. Ouais. Ben par exemple pour rester dans le domaine des mangas sur lequel je m'exprime beaucoup, une des premières utopies dystopies qui me vient en tête c'est le monde de Gunm ou Gunmu. Après des années à lire ça, je ne sais toujours pas comment ça se prononce, mais en gros ce qui est très intéressant c'est que forcément la dystopie et l'utopie forment la même face, c'est-à-dire que l'un est la résultante de l'autre. Il y a la ville de Volante de Zalem, avec en dessous la décharge. Et la décharge est la résultante aussi de ce que Zalem rejette sur le sol. Et ce qui est intéressant, c'est que forcément, vous avez la métaphore extrêmement évidente de la ville volante, du coup les gens d'en haut et les gens d'en bas, qui eux ils vivent dans les poubelles et ce genre de choses, mais de l'autre côté vous voyez qu'il y a une relation un petit peu symbiotique où vous voyez qu'il y a des contributions d'en bas qui reviennent jusqu'en haut, qu'il y a quand même un aspect profiteur et qu'en même temps ce qui est créé en haut profite aux gens d'en bas pour essayer de se créer une vie décente. Et vous voyez vraiment que l'un alimente l'autre et l'un est dans l'ombre de l'autre et l'écrase et conditionne son style de vie. Donc finalement c'est une fausse utopie qui crée une dystopie très explicite en fait. C'est un monde qui est globalement entre guillemets dystopique dans les deux cas, parce que même les gens de Zalem ne sont pas forcément heureux, c'est des gens qui souffrent, c'est des personnes par exemple qui ont beaucoup compromis leur aspect de l'humanité. Ce qui est très bien par exemple dans Gun, c'est qu'il y a l'aspect du nouvel humain. Beaucoup de gens par exemple qui habitent dans la décharge sont des cyborgs, ils ont des bras mécaniques, ils ont des viseurs à la place des yeux, ce sont vraiment des êtres qui sont plus machines que hommes. Mais la question se pose aussi pour les personnes de Zalem. Les personnes de Zalem par exemple sont des personnes qui ont l'air d'être en apparence entièrement organique, mais ils n'ont pas de cerveau. C'est pas qu'ils sont bêtes, hein, bon, ils le sont un peu, mais c'est surtout qu'ils ont tout remplacé par une micropuce, en fait. Et du coup, certains ne sont pas au courant qu'ils en ont. Certaines personnes vivent toute leur vie sans savoir qu'ils n'ont jamais de cerveau, et ils ont toujours eu des micropuces dès leur naissance. Et ça pose une question existentielle pour eux, c'est-à-dire que quelle est la différence? Qu'est-ce qui les distingue? Est-ce que c'est finalement un corps de chair avec un intérieur mécanique, ou un corps mécanique avec encore un intérieur de chair? Finalement, la distinction n'a aucun sens et ne se fait pas, et finalement, tout le monde appartient au même dilemme. Tout le monde est dans le même dilemme. Le niveau de vie est supérieur à Zalem, mais les problèmes existentiels et les névroses sont les mêmes. Et en plus, alors je vous raconte pas qu'ensuite, encore au-dessus de Zalem, il y a une station spatiale qui s'appelle Jéru. Vous avez compris, Jérusalem, c'est une métaphore. Moi, mais vous voyez que en fait, pour le coup, ce qu'on croyait être le stade le plus haut possible dans Gun, vous avez encore plus haut, et c'est là qu'on arrive sur Gun Last Order, où là ça se passe dans l'espace et où on quitte la Terre. Mais vous voyez que pour le coup, les choses deviennent vertigineuses et finalement on est tous dans l'ombre d'un oppresseur, mais à une échelle différente, quoi. C'est juste ceux qu'on pensait être les plus hauts possibles, ils ont encore plus haut qu'eux, et ça ne se termine jamais. Il faut bien que l'oppression et la liberté, il faut bien que l'oppression s'arrête quelque part, que la liberté commence quelque part. Une autre dystopie aussi, peut-être du 9e art, c'est pas tant 9e art, mais c'est un peu, c'est à moitié le 9e art, à moitié l'animation japonaise, c'est évidemment Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, c'est un postulat qui est un peu plus réaliste, parce que c'était pas vraiment un monde imaginaire, une cité imaginaire, c'est relativement le vrai monde, mais façon cyberpunk, hein. C'est Tokyo, c'est Hong Kong, et notamment, par exemple, quand on pense au film de Mamoru Oshii, là, le premier, vous avez vraiment cette Hong Kong très très... vraiment reconnaissable. Vous avez ces infrastructures très anciennes, cette ville semi-aquatique avec ces fleuves qui longent les immeubles, ces bateaux. Vous avez des endroits où vous avez des lanternes traditionnelles, des pagodes, des genres de choses mélangées avec des aspects extrêmement ultra-modernes, des architectures qui sont très futuristes, des personnes qui sont à moitié cyborgs mais qui font quand même, participent à des concessions, des défilés traditionnels. Dans le 2 aussi, c'est pareil. Vous avez un défilé de très animiste, mais utilisant des technologies futuristes. Du coup, vous avez vraiment une société qui est pas tellement dystopique, mais en tout cas pas plus que la nôtre, mais qui permet de dire que oui, ce monde a des aspects sombres, mais il est pas si loin du nôtre, et on comprend pourquoi les gens vivent dedans. Je pense que souvent on parle de l'erreur qu'on fait beaucoup dans les dystopies, c'est de rendre les mondes intensément cauchemardesques et intensément invivables. Et on se dit, mais en fait, si cette société est aussi pourrie, comment ça se fait que ça se maintient en vie aussi longtemps? Ça devrait péter à un moment. Et la solution est simple, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une raison de rester dans cette société. Il faut que les gens ils se disent, oui, c'est pas top, mais ça pourrait être pire. Il y a quand même des trucs sympas, hein. Voilà. Pareil, ça me rappelle, comment ça s'appelle déjà, c'est un animé aussi qui est pas mal du tout, c'est Psycho Pass. C'est un monde qui est cauchemardesque, c'est des personnes, c'est les policiers, ont des pistolets qui repèrent la santé mentale des gens. Et du coup, si on pense que ton niveau de santé mentale est pas suffisant, bah le pistolet enlève sa sécurité, tu peux lui tirer dessus et la personne explose comme comme un soufflet, comme un soufflet qui est retombé quand si on l'a fait cuire trop longtemps, qu'on a ouvert la porte du four trop longtemps, c'est dégueulasse. Mais pour le coup, c'est un monde qui a l'air cauchemardesque. Et même par exemple, on utilise même des personnes qui ont des problèmes de santé mentale ou qui ont des antécédents judiciaires pour en courser d'autres. Parce que tu sais, les vrais reconnaissent les vrais. Et puis en plus, s'ils sont pas sages, on peut les tuer, donc c'est facile, ils ont plus le droit humain. Mais de l'autre côté, tu te dis, mais comment on peut vivre dans une société comme ça? Bah parce que c'est une société, c'est cool, on peut changer de vêtements en réalité augmentée, il y a des hologrammes, la technologie, elle est bien, on manque pas de nourriture, il y a quand même... le niveau de vie a augmenté, les gens ils ont moins de problèmes de peur de pour la criminalité. En fait, la criminalité n'a pas disparu, c'est juste qu'elle est encore plus compartimentée que d'habitude pour que ça se voit moins. Hein, maintenant on fait de la gentrification des criminels, hein, c'est super, c'est un nouveau concept. Mais voilà, pour le coup, c'est là que tu dis oui, une dystopie pour qu'il marche, faut que ça fasse semblant d'être une utopie pour suffisamment de gens pour que ça bouge pas.
Oui, c'est les deux faces d'une même pièce, une utopie et une dystopie. L'un ne vit pas sans l'autre.
Exactement, oui. Généralement, quand on pense à utopie et dystopie, c'est parce qu'on pense finalement à la version exagérée, positive ou négative de ce qu'est notre société actuelle. Notre société actuelle, s'il se passe beaucoup de mauvaises choses, c'est parce qu'on essaye de se raccrocher au peu de bonnes choses qui nous restent. Sinon, tout pète. Mais finalement, oui, c'est là qu'on se dit que pour qu'une société fonctionne, aussi embêtante soit-elle, faut qu'elle alterne, quoi. C'est une dystopie, mais qui, en même temps, il y a suffisamment d'avancées pour que les gens ils aient un espoir d'un meilleur futur. Les gens, on vit tous dans une dystopie et on attend qu'une utopie arrive à la place, vous voyez. C'est juste que pour le coup, c'est pas si simple. Et c'est là qu'on se rend compte que oui, on ne fait que c'est deux faces d'une même pièce qu'on alterne, sur lequel on fait pile ou face constamment tous les 10 ans.
Effectivement. Et est-ce que le support BD, le support graphique, manga, comics ou BD, c'est un bon support pour parler de dystopie ou d'utopie?
Bien sûr, bah déjà que la littérature classique avec ses lettres et ses pas d'image du tout, eh bien ça a prouvé qu'on pouvait faire des histoires d'utopie extrêmement marquante, hein. Je vais pas vous citer les évidences, hein. Bah si, d'ailleurs je vais le faire. 1984, Un monde meilleur, qu'est-ce qu'il y a aussi, il y a la comment ça s'appelle, The Handmaid's Tale, c'est ça le... Voilà, bien sûr. Donc ça, on les connaît bien. Mais pour le coup, c'est vrai que comme toute science-fiction, il y a l'aspect évidemment graphique. Il y a l'aspect que quand on crée un monde, on aime bien le visualiser, on aime bien voir comment ça fonctionne, comment les gens se déplacent, comment les gens s'habillent, dans quoi ils habitent. Est-ce que c'est quoi comme architecture? Est-ce qu'ils sont, ils habitent dans des bâtiments brutalistes, ou est-ce que je sais pas, les gens ils habitent dans des trucs néo-romans ou art déco? Quelle est l'esthétique de ce monde? Dans quoi on vit? Et des fois, finalement, pouvoir mettre des visages à côté d'un décor, ça permet aussi d'avoir un sentiment. Comme on dit, une image vaut 1000 mots, voilà. Donc, il y a un intérêt, bien sûr. Des fois aussi, avec mon imagination basée sur les textes, c'est fantastique, hein, ça marche du tonnerre. Mais des fois, pouvoir avoir un aperçu de comment un auteur explicitement montre son univers et montre ses personnages, montre leurs expressions faciales et à quel moment ils rient, à quel moment ils pleurent, comment ils s'habillent, comment ils agissent, quel genre de subtilité de mouvement au niveau de leur corps ils ont, avec quel édifice, avec quel environnement ils contrastent, c'est important, je pense. C'est important de visualiser. Si on veut voir notre société, plutôt que nous la décrire, il nous suffit de regarder par la fenêtre pour voir quoi ça ressemble. Je pense que c'est intéressant de faire pareil à travers la fenêtre des cases.
Super. Effectivement, ça ancre aussi dans la période à laquelle c'est écrit, ou dans laquelle la période à laquelle on veut faire référence. Merci beaucoup.
Voilà, je suis désolé, j'ai parlé trop comme d'habitude.
Alors peut-être qu'effectivement l'ermite moderne a parlé trop comme à son habitude, mais si c'était pour dire des choses aussi intéressantes, on y serait resté encore très longtemps. C'était vraiment une belle rencontre, vraiment très sympa. Si vous ne connaissez pas l'ermite moderne, je vous invite à aller le suivre sur sa chaîne YouTube par exemple, où vous pourrez retrouver pas mal de choses. J'avoue que c'est un vrai plaisir de le voir parler de tout ça, des fois complètement sans filtre, juste pour le plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous abonner, à liker, partager, tout ce que vous voulez. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec une musique. Alors, je sais absolument pas pourquoi j'ai eu envie de vous mettre cette musique-là. Il s'agit du remake de la... Comment dire ? Je vais y arriver. Le remake du générique, du thème principal de Zelda en version métal par le groupe Vomitron. Et on se retrouve tout de suite après sur le 101.5 de Radio G. Vous êtes de retour sur le 100.5 de Radio G, toujours dans la case de Seb. J'étais en train de parler avec un micro qui n'était pas ouvert, donc vous ne m'entendiez pas. Ça s'appelle un peu la loose, mais comme je suis tout seul et que vous pouvez pas vous moquer chez vous, écoutez, je vous fais part de mon petit désagrément. Bon, bref, je disais Vomitron avec Nanes for the Wicked, un album qui reprend des génériques de jeux vidéo NES de 8 bits pour les passer en version métal. J'espère que ça vous a plu, ou j'espère que ça vous a décrassé un peu les oreilles, et puis surtout que vous avez pu profiter de cette excellente version du thème principal de Zelda. Alors, quand je ne joue pas à Zelda en ce moment, je continue à lire, à bouquiner et pas mal, et puis à faire du montage des interviews que j'ai pu réaliser lors du festival Angers Geek Fest l'année dernière, un festival qui s'est déroulé organisé par l'ENO et puis qui grâce à Angers, Destination Angers pardon, nous a permis de réaliser des interviews sur place, ce qui était plutôt cool. Donc je vous en fais profiter encore un petit peu. Pour rappel, j'ai discuté avec plein de gens, des gens qui sont des dessinateurs, qui sont simplement des exposants. Là, j'ai eu l'occasion de rencontrer Morgan the Slug, qui est un dessinateur et qui nous parlait d'un de ses albums, et puis qui j'ai posé une question toute bête, mais quelle est ton œuvre de dystopie ou d'utopie favorite dans le 9e art? Il nous parle d'abord de ses albums et puis répond après à ma question.
Bonjour, alors moi c'est Morgan the Slug, je suis un auteur illustrateur qui vient de Lille et je viens présenter mes deux albums de bande dessinée qui s'appellent Rescue the Princess.
Et de quoi ça parle Rescue the Princess?
Rescue the Princess, c'est une bande dessinée d'aventure, héroïque fantasy et humour. Et c'est un peu dans le titre, c'est deux personnages qui sont un peu opposés, qui essayent de sauver une princesse. Un chevalier qui veut faire plaisir à son père, qui est le roi du royaume, mais c'est pas trop pourquoi aller sauver une princesse. Il se dit que c'est l'occasion d'aller taper sur des monstres. Et Rodriguez, qui est un voleur vraiment maladroit, peureux, et lui il se dit juste, s'il est à côté du chevalier pendant qu'il sauve la princesse, l'un dans l'autre, c'est un peu comme s'il avait vraiment sauvé la princesse, et du coup il pourra se la péter auprès des autres aventuriers.
Un bon style ça. C'est, tu disais micro-édition, auto-édition, c'est disponible où pour les gens s'ils veulent l'acheter, en dehors des festivals?
Alors c'est disponible via mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, j'ai une boutique Ko-fi aussi, donc on retrouve tout sur plein de pubs, Morgan the Slug, vous tapez ça partout, que ce soit Instagram, Twitch, vous allez me retrouver. Et sinon c'est disponible uniquement dans la seule librairie d'auto-édition de toute la France, à Lille, qui s'appelle Croa Funding.
Je vois le jeu de mots, Croa, C-R-O-A comme la grenouille.
Comme la grenouille, exactement, parce que du coup c'est le crowdfunding mais à la française.
Nice, un full lancement. C'est plutôt jeune public?
Oui, nous on conseille à partir de 10 ans la lecture. Par contre, le retour qu'on a eu, c'est que comme on ne s'est pas fixé une tranche d'âge un peu à 7-8 ans niveau marketing, il y a à la fois des adultes qui arrivent à avoir les références à Jurassic Park, Star Wars ou les blagues à deux niveaux de lecture. Et aussi, on a des enfants qui vont trouver le dinosaure rigolo ou le personnage en armure rigolo. Donc, on est assez content de voir que les blagues sont un peu intergénérationnelles et qu'il y a différents niveaux de lecture, qu'à la base, les parents l'achètent parce que c'est peut-être pour les enfants, mais après, ils le lisent aussi et trouvent les références aux jeux de rôle ou à la pop culture aussi.
Super, donc vraiment tout public, même si à la base, c'est plus orienté enfant, mais tout le monde peut le lire.
Et ouais, c'est ça, tout le monde peut lire et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est partager notre passion pour les jeux de rôle et la pop culture et faire en sorte que on casse un petit peu ces codes de la chevalerie, le récit d'heroic fantasy classique et que tout le monde puisse retrouver soit sur le dessin, parce qu'on essaie aussi de faire des jolies planches, donc même les adultes vont trouver que le dessin est chouette, les enfants vont trouver certains personnages marrants, donc on essaye vraiment de faire un truc pour tout le public.
Super, deux tomes pour l'instant, c'est ça?
C'est ça, deux tomes sortis à ce jour et on travaille sur le troisième qui fera un peu plus de 100 pages où on est passé de 50 pour le premier, 70 le second à 100 pour le dernier parce que justement comme on est auto-édité, on n'a pas de limitation en nombre de pages, on est vraiment hyper indépendant et ça c'est une très très grande liberté.
Il y a un nombre fixe d'albums prévus ou pas du tout?
Eh ben, le troisième sera le dernier. On veut clôturer un peu cette saga sur trois tomes. Après, on a d'autres idées, peut-être dans ce même univers ou avec d'autres personnages. Mais déjà, trois, c'est bien pour aussi des questions pratiques. Emmener trois albums en auto-édition dans des valises, au moins, c'est pas mal. Et pouvoir après explorer d'autres choses.
Super. On l'évoquait tout à l'heure, je vais demander aux gens en fait quelle est leur œuvre utopique ou dystopique favorite, que ce soit BD, comics ou manga. Est-ce que tu peux m'apporter une réponse pour toi et me dire pourquoi cette œuvre-là elle est importante pour toi?
Je dirais Akira, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Enfin, j'ai vu l'adaptation animée et j'ai voulu me replonger dans la version papier, manga. Et je trouve que les cases sont incroyables. Il y a vraiment beaucoup de détails au niveau des décors, les expressions des personnages. Et j'aime beaucoup aussi l'amitié qu'on suit entre Tetsuo et les autres personnages, où il y a vraiment tous ces liens. Et la figure du laissé pour compte, celui qui est un peu le loser et qui d'un coup a des pouvoirs, c'est aussi quelque chose qui me plaît moi dans les histoires que je raconte.
Merci Morgan the Slug de nous avoir, de m'avoir accordé ce petit moment. C'était plutôt sympa de ta part. N'hésitez pas à aller chercher ces albums. Tapez Morgan the Slug, apparemment vous le trouvez sans problème. Et puis merci également de nous avoir fait part de cette BD. De ce manga du coup qui est un manga qui t'a marqué, un manga qui a marqué certainement beaucoup de personnes. Moi j'avoue que dès que je le relis, j'ai forcément les musiques qui me reviennent dans la tête, des musiques assez fabuleuses. Et puis comme quelqu'un d'autre que j'ai rencontré aussi, Dekara, ça a été une première découverte sur un autre format, un format un peu étrange en France, mais je laisse Nicolas, qui était exposant à l'Angers Geek Fest, en parler plus amplement.
Alors, est-ce que tu peux me donner ton prénom ?
Nicolas.
Alors Nicolas, est-ce que tu peux me parler de ton œuvre utopique ou dystopique favorite en BD franco-belge ou manga ? Et quelle est-elle ?
Ce sera un manga. C'est Akira de Katsuhiro Otomo. En gros, un monde post-apocalyptique. Les humains ont trop joué avec la bombe et tout a pété. Surtout à Tokyo. Enfin, en tout cas, on ne voit que ce qui se passe à Tokyo. Dans le reste du monde, ça a l'air d'aller. Et la vie se refait à Tokyo avec des rites ancestraux, à la mode un peu moderne. Et moi, j'ai découvert Akira à la base un petit peu comme un comic au final, puisque c'était les éditions françaises, toutes colorisées, moches. Je les ai encore et je suis trop heureux de les avoir. Je les ai rachetées en noir et blanc récemment. Et
De l'ultra collector quand même là.
Oui, mais pour quelque chose qui vaut vraiment le coup. Akira, c'est magnifique. C'est excessivement bien dessiné. Katsuhiro Otomo, c'est vraiment un maître du dessin. On a des paysages entiers d'apocalypse, de villes détruites par de l'apocalypse. On a les petites pilules qu'absorbe Tetsuo pour accéder à un pouvoir qu'il a déjà, mais qui finalement c'est un pouvoir qui le déborde. Le tout petit Akira qui globalement sert à rien, mais fait tout. C'est lui qui fait tout, mais il fait rien en fait. Et puis Kaneda qui est le entre guillemets le débile de service, mais qui est mortel et qu'on a envie de suivre jusqu'au bout et qui garde ses valeurs, le personnage de manga de base, type un peu shonen, mais dans un univers hyper dystopique. Akira, c'est ma... J'ai commencé quasiment par ça, avec les Dragon Ball et ce que je voyais à la télé avant. Mais Akira, c'est le premier manga qui m'a fait réfléchir, qui m'a fait me plonger dans un univers. Et surtout, c'est le premier manga que j'ai découvert en écrit. C'est pas un manga que j'ai découvert après avoir vu l'animé à la télé. Et je suis tombé dedans et je me suis plongé dedans vraiment comme il fallait.
Merci Nicolas de ce témoignage au sujet d'Akira. Akira, effectivement, un manga qui en France a connu plusieurs éditions, plusieurs façons de le découvrir, que ce soit par le film. Il en parlait sur les versions colorisées qui, de mémoire, étaient publiées. Alors, il y a eu deux versions colorisées. Il y a eu les versions fascicules qui contenaient un ou deux chapitres. Et on a eu les versions grand format en format franco-belge, dans le sens de lecture européen, et entièrement colorisées qui, de mémoire, étaient éditées chez Glénat avant que Glénat ne décide de refaire une grosse édition complètement noir et blanc. Donc il y a vraiment un manga que vous pouvez découvrir, redécouvrir de plein de façons. Mais peu importe la façon dont vous allez le découvrir, c'est quand même un manga qui est absolument culte pour beaucoup, beaucoup de personnes, que ce soit de ma génération, de la génération de Nicolas, qui doit être à peu près de la même que la mienne, ou de générations plus jeunes. C'est un manga qui a su se faire une place et devenir quasiment intemporel. Puisqu'on parlait de Akira, on parle aussi du coup d'une apocalypse, hein, puisque ça reste quand même un manga qui parle de fin du monde. Ce sera aussi le thème de la chronique qui part juste après la petite pause musicale qui va bien avec R.E.M. et It's the end of the world as we know it, and I feel fine. Et c'est une petite dédicace à ma chère femme.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world serves its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox, speak grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down high. Fire and a fire representing seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters babble Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, dead. Uh-oh, overflow, population common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world serves its own needs. Listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend, the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, bright, light, feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Lock it in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive centerate, light a candle, light a motor. Step down, step down, watch your heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. Tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, but that, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. We'll be right back.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G. C'était la fin du monde, mais on le sent bien. Alors oui, hein, la fin du monde, elle arrivera bien un jour ou l'autre, mais autant que ça se passe le mieux possible et le plus tard possible. Hein. C'est le petit instant prévention de papa. Soyez sage avec votre planète. Comme disait un de mes amis, c'est quand même la seule à notre connaissance où il y a de la bière. Donc, profitez-en, parce que si voilà, vous cassez votre planète, vous n'aurez plus de bière. Enfin bref. Tout ça à boire avec modération et voilà. Ouais, je sais, je pars en vrille un petit peu, mais c'est pas grave. Hein, il paraît que c'est ça qui vous plaît, donc on y va. Hein. Je vais vous parler d'un album qui parle du coup de fin du monde, ou au moins de la fin d'un monde, puisque c'est aussi ça qui est important. Je ne sais pas si vous connaissez Stan Silas. Stan Silas est un monsieur qui aime bien dessiner des BD où il se passe des trucs un peu bizarres, des fois où il y a des enfants. Il aime bien les enfants. Il aime bien aussi les maltraiter. Et c'est le cas dans L'Oser Apocalypse, publié aux éditions Le Lombard. Là, j'ai le tome 1 entre les mains. Alors, comment vous résumez L'Oser Apocalypse? C'est l'histoire des Alvins. Les Alvins, ce sont des enfants qui ont été placés dans des familles d'accueil. Et ces enfants, on leur a proposé d'aller en vacances. De passer des vacances loin de leur famille d'accueil et ils sont plutôt contents de faire ça. Et puis bah comme ils ont pas de bol parce que vraiment ils ont pas de bol, et ben leur avion il arrive un truc, alors je veux pas vous spoiler, mais l'avion va se crasher en plein milieu d'un endroit où on sait même pas où c'est. Alors après le titre c'est L'Oser Apocalypse, hein, donc je vous laisse imaginer déjà un petit peu ce qui a pu se passer. Et puis bah les enfants vont tout de suite se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas très très bien dans cette zone-là. Déjà, il n'y a pas grand monde, hein, mais très vite, ils vont se faire attaquer par ce qui ressemble à des enfants avec des masques de poulet. Truc qui est pas... Ben voilà, je sais pas si vous avez déjà vu un enfant avec un masque de poulet en dehors de Mardi Gras. Déjà, c'est chelou. Et quand vous en voyez plein d'un coup et qui ont l'air un tout petit peu quand même pas mal agressifs, il y a quand même un problème. Et puis, bah, ces enfants ils vont passer en mode survie. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe, de survivre. Ils sont tous un petit peu particuliers. Ça va de la pom-pom girl un petit peu trop bien en chair, en passant par une petite fille qui a été pour plaire, on va dire, à sa famille d'accueil, un petit peu bourré, avec trop d'hormones masculines. Ça va passer devant le petit garçon qui est beaucoup trop dark, ou celui qui, au contraire, est un petit peu trop kawaii, puisqu'il se trimballe toujours en déguisement Pokémon. Ouais, c'est assez particulier, mais ça marche super bien. C'est vraiment... c'est des personnages qui sont... quand même hyper attachant malgré leurs petits défauts, alors même gros défauts, allons-y, hein, les gros défauts, il y en a une, elle se sent pas péter, voilà. Enfin bref, je vais pas vous raconter tout l'album en détail, mais sachez que c'est un gros album déjà, hein, parce que vous avez un paquet de pages, vous avez une histoire qui se déroule sur quasiment 200 pages, donc c'est que le tome 1, et ça va de rebondissement en rebondissement, il se passe des trucs complètement dingues, qui pourrait, si je voulais résumer là maintenant tout de suite, avoir l'impression d'avoir ni queue ni tête, mais en fait non. Il y a plein de choses qui se passent qui sont hyper cool dedans, donc c'est vraiment c'est il y a de l'action, il y a de l'émotion. Je l'ai pas dit, mais Stan Silas il aime bien faire du mal aux enfants, enfin dans ses BD en tout cas, et ça induit quand même quelque chose, c'est-à-dire que c'est un album à ne pas mettre entre les mains de vos enfants, malgré un style qui peut avoir l'air kawaii, mignon et compagnie. J'aurais tendance à dire moins de 13 ans, vous oubliez. Et encore, même à partir de 13 ans, il y a des trucs... faut être sûr que vos enfants y comprennent ce que c'est le second degré, le décalage et l'humour noir. Hein, voilà. Donc je pense qu'il y a des enfants, ce sera pas avant 18 ans, voire même avant 25, mais ça c'est un autre problème. Non, c'est un album qui est vraiment dingue. Alors moi j'adore, je je pense que je suis pas très objectif. J'adore ce que fait Stan Silas. J'adore son humour. Il a fait des coopérations avec d'autres artistes, notamment sur certains scénarios, pour faire des trucs. Il arrive à distiller son humour. Il arrive à trouver des gens avec lesquels il va être capable de faire différentes choses. Donc ça peut être plutôt sympa. Donc c'est toujours sympa. Donc n'hésitez pas. Moi je trouve ça vraiment très très bien. Graphiquement, il y a un côté très rond, très. Je sais pas. Il arrive à faire des personnages qui sont caricaturaux. On comprend tout de suite quelle est l'intention du personnage, ce qu'il est, quels sont ses bons points, ses malheurs. Les personnages sont attachants. Parce qu'il y a cette espèce de petit côté kawaii. C'est pas du SD, c'est pas tout à fait du SD, même si on est très très proche de ça. Le SD pour le, c'est le super déformé de qu'on peut trouver dans pas mal de japonais de manga pour donner une grosse dose d'humour. Donc c'est vraiment, ça marche très très bien. Graphiquement, au niveau couleur, c'est toujours très coloré, très pop, très pétant. Donc ça marche bien. Il y a de belles ambiances, il y a beaucoup de dessins. Stan Silas sait gérer l'action de belle manière et encore une fois, il y a des trucs, c'est juste complètement de l'humour, complètement absurde et qui n'est pas juste une blague. Quand il y a une vanne chez Stan Silas, souvent c'est un élément de scénario. C'est une vanne. Trash, mortel, de l'humour noir, mais c'est souvent un élément de scénario qui vient s'ajouter à ça. Donc c'est plutôt cool. Donc c'est vraiment très sympa. Si en plus vous ajoutez que Stan Silas aime bien faire des références, et puis des références vous en trouverez pas mal, que ce soit aux jeux vidéo, que ce soit à des univers d'apocalypse, peut-être un peu avec Akira, je vous laisserai chercher les références, même si celle-ci devrait vous sauter aux yeux. Et c'est vraiment un excellent bouquin. C'est le livre 1. Alors je pense que le projet initial, vu le format, était peut-être une série un peu plus longue, puisque les chapitres font aux alentours de 64 pages, donc peut-être que il y avait un premier format qui était déterminé comme ça, mais moi Lozère Apocalypse, le livre 1, je vous avoue que c'est quand j'ai vu les premières planches, je me suis dit faut que je lise ça, on va voir si Stan Silas est toujours capable de faire un truc de dingue. Et là, on a un beau bousin qui envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de steaks. Et c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous redonne les références. C'est Lozère Apocalypse, c'est de Stan Silas. C'est publié aux éditions Le Lombard. Et c'est franchement un bon moment, un bon pavé. Donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. Je vous propose de refaire une petite pause musicale. Je sais, il y a beaucoup de musique ce soir, mais... ça permet d'aérer un petit peu avec ma voix et puis les voix des invités. Et là, je vous mets un petit morceau de jeunesse. Je ne sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais c'est dû sortir il y a très longtemps. Est-ce qu'on a... Non, j'ai pas la date. C'est Réveiller le punk des Zwinkels.
Je m'en fous, je saute comme Donkey Kong. Je ne vivrai jamais comme quiconque. punk se réveille. Éclate son réveil sur le téléphone qui sonne. Je m'assomme, réveille le punk qui sommeille. Je bondis de mon sommier, me rince le gosier. Paume la bière que j'achetais, ne servait qu'à me coiffer. Crise d'adolescence, punk naissant. Sans plan de famille délaissant, je suis bête et méchant. En radin marbotant, barbotant dans mon sang après un pogo. Je suis le vilain, sauvage, bravo, pire qu'un lobo. V'là mon logo, fallait pas me laisser dans le labo de chimie. J'ai tout bégo. Quoi de neuf toc, gros coup de neuf coquille. Dans mon hip hop troqué contre du rock. Sors ton perfecto défroqué, tu seras ok. Pour ne pas terminer comme la femme des Sex Pistols dans le frigo tout découpé, couplé à ma bière comme si c'était mon frère. Je suis fier, y'a qu'elle qui me nourrit, je t'épingle la nourrice. J'ai bu comme Ludwig 88-6, double zéro de conduite 6, suicidal tendance. Mon single des cinglés, le tube de l'éther, plus antisocial que Truss. Je pue comme le Minster, les peuves lancent le pavé dans la manifestation. Prenant l'autodestruction, j'ai perdu ma génération. Des bouts jusqu'au bout d'angle, je vais te faire fuir. Je représente ceux qui utilisent leur cervelle à la détruire.
Répéter le pont qui est en moi, faire péter le stupid, stupid, pont, pont. Je veux répéter le pont qui est en moi, répéter le dieu qu'on paye ton pont, fais péter le pont. Je veux répéter le pont qui est en moi, faire péter le stupid, stupid, pont, pont. Je veux répéter le pont qui est en moi, faire péter le dieu qu'on paye ton pont, fais péter le pont.
Les Winkles sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. J'espère que vous passez toujours un bon moment. Hein. Je suis désolé, je vous fais partager mes vieux trucs. Voilà, pensez à toujours nettoyer vos esgourdes et puis prendre soin de vos neurones à crête. Ça fait toujours du bien et ça permet de relativiser un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Je suis toujours dans ma rétrospective de l'Angers Geek Fest 2023, l'événement qui était créé par l'agence Leno et qui nous a accompagné avec Destination Angers pour pouvoir faire des interviews et puis que Radio G soit présent sur l'événement. D'ailleurs, je parle aux gens qui gèrent Radio G. Hein, je réitère ma proposition de faire un live complet sur le prochain AG Geek Fest, mais on verra. À mon avis, ça peut être très très intéressant, très très drôle. J'ai rencontré deux autres personnes, puisque c'est l'occasion en fait quand on fait des festivals comme ça de rencontrer des gens et de découvrir des choses. Et toujours dans mon enquête de savoir quel était selon les festivaliers et exposants la meilleure œuvre de fiction, la meilleure œuvre de dystopie ou d'utopie dans le 9e art, j'ai été à la rencontre de deux personnes qui ont toutes les deux fait quelque chose de très proche et pourtant tellement différent. J'ai rencontré Louis dans un premier temps et Maxime. Et ces deux personnes ont pour particularité d'avoir fait un manga qui parle de l'Afrique. On écoute d'abord Louis et il nous parlera aussi de son œuvre de dystopie favorite.
L'Angers Geek Fest et je suis en compagnie de Louis qui a un manga en deux tomes qui s'appelle Red Flower. Bonjour Louis.
Salut à tous.
Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, comment t'en es venu au manga et puis qu'est-ce que c'est Red Flower? Alors pas forcément tout à la suite, hein, mais comme tu veux.
Avec plaisir, moi c'est Louis, auteur on va dire indépendant de manga, donc je fais une série d'histoires courtes pour l'instant en deux tomes qui s'appelle Red Flower Stories, qui sont en fait une série d'histoires courtes inspirées de contes, de légendes ouest-africaines, on va dire, de choses que j'ai vues et que j'ai vécues pendant mon enfance, mais en format manga. Donc on va y retrouver tous les motifs de mon enfance, les baobabs, la savane, la jungle, les arts martiaux africains, le vaudou, bref, plein de choses comme ça, action-aventure. J'ai découvert le manga assez tard à travers le fameux One Piece qui m'a donné envie de moi aussi me lancer dans ce genre de narration. J'ai pris quelques années suite à mon arrivée en France en 2015 pour m'améliorer graphiquement, pour me consacrer au dessin. Et en 2018, je lance mon premier recueil de one-shot Red Flower Stories avec un financement participatif qui a tellement bien marché que j'en ai fait un deuxième tome. Et aujourd'hui, qui m'a permis de signer la série chez Glénat, donc pour une nouvelle saga en 5 tomes qui va paraître le 21 juin 2023 en librairie.
Une belle success story qui, on espère, va continuer chez Glénat. Du coup, on retrouvera les mêmes personnages, mais sur une histoire complète, c'est ça?
Exactement. Tous les personnages qu'on aura découverts dans ces deux tomes, on va les retrouver dans une histoire commune qui est cette fois-ci une histoire terminée en 5 tomes qui va raconter une histoire beaucoup plus vaste, avec beaucoup plus d'ambition et qui va traiter de thèmes beaucoup plus en profondeur.
Eh ben super, hâte de lire ça. Une petite question du coup que je pose à tous les invités. Est-ce que tu as une œuvre de dystopie ou d'utopie qui t'a marqué? Alors peut-être plus en manga qu'en comics ou qu'en franco-belge?
Absolument, il y en a deux qui me viennent à l'esprit immédiatement. Je pense à Psycho Pass, que j'ai vu en animé, qui pour moi est une œuvre justement de dystopie, un peu similaire à Minority Report, qu'on avait pu voir avec... comment il s'appelle J'ai oublié, bref, à l'époque. C'est pas Tom Cruise, c'est l'autre là. Ah peut-être, t'as raison. Bref, Minority Report, et qui traite de sujets que moi j'adore. En fait, comment est-ce qu'on sait qui a raison, qui a tort? Est-ce qu'on peut essayer en fait de punir les gens avant qu'ils aient commis un crime, rien que sur leur index psychologique, comme on le voit dans la série? Une belle série de dystopie. Et sinon, un peu plus connu, un peu plus mainstream, je pense également à My Hero Academia, en fait, qui traite d'une société où les héros se veulent des personnages nobles, des personnages qui n'ont pas de défauts, mais en fait les méchants vont révéler au public le fait que les héros ont des défauts, sont des humains comme tout le monde, vont être sujets à la trahison, à la jalousie, à l'ego. Et ça, moi je trouve, c'est une belle histoire de dystopie alors qu'on pensait qu'on était dans une utopie protégée par les héros.
Super, merci beaucoup Louis.
Avec grand plaisir, merci à toi.
Effectivement, un grand merci à Louis de m'avoir parlé déjà de ces mangas dont on reparlera très certainement dans l'émission une fois que la sortie sera effectuée courant juin aux éditions Glénat. Clairement, ça donnait très envie. Hein, je ne les ai pas lus malheureusement pour l'instant, mais ce sera l'occasion. Et puis, merci également de nous avoir parlé aussi de Psycho Pass, déjà évoqué par l'ermite moderne en début d'émission. Que je n'ai pas lu, que je n'ai pas vu, qui sera l'occasion aussi peut-être de me plonger dedans. Et puis effectivement, My Hero Academia, qui ne connaît pas My Hero Academia, avec son générique tellement reconnaissable. Voilà, n'hésitez pas, c'était super cool. Et puis, quelques mètres plus loin, je suis tombé sur un autre jeune homme qui faisait aussi un manga, qui parlait aussi d'Afrique. C'était Maxime, avec les éditions d'Achicré.
Alors, je suis en pas du tout direct de l'Angers Geek Fest, hein, puisque j'enregistre cette interview. Je suis avec Maxime de d'Achicré, qui est une maison d'édition, qui publie The Last Kamit. Bonjour Maxime.
Bonjour Sébastien.
Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette maison d'édition et après enchaîner un petit peu sur The Last Kamit, qu'est-ce que c'est?
Alors, The Last Kamit, c'est un shonen, un peu comme Naruto, Dragon Ball, One Piece, sauf que la particularité, c'est que l'histoire se passe en Afrique. Et en fait, pour promouvoir ce projet, on a créé notre propre maison d'édition à 7, qui s'appelle d'Achicré, pour permettre de faire découvrir un peu ce projet en gardant un peu notre indépendance et promouvoir d'autres projets qui sortent un petit peu des cases, faire découvrir d'autres cultures au travers des codes du manga.
Super. Et du coup, The Last Kamit, de quoi ça parle?
The Last Kamit, en fait, on va suivre deux jeunes qui veulent devenir des gardiens. Les gardiens dans cet univers-là, c'est les protecteurs de la nature et de l'humanité. Pour faire gros, c'est le Hokage dans Naruto. Et pour ça, ils vont faire un voyage initiatique tout autour de l'Afrique. Aller se confronter un peu à toutes les cultures, les différents mythes qu'on a en fonction des pays. Et nous, on va suivre ça à travers leurs yeux avec les codes du shonen. Donc de la bagarre, de l'amour, de l'amitié, du dépassement de soi, des gars qui crient et qui explosent leurs vêtements. Tout ce qu'on aime retrouver dans le shonen en général.
Super. On est sur un format un peu hybride. C'est entre le manga, le comics et un peu aussi de BD franco-belge.
Exactement, en fait, on cherchait un peu nos marques. On voulait pas faire du manga traditionnel, on voulait pas faire du comics traditionnel. Bah, on a mixé un peu tout ça. On a mis le format d'un comics avec l'esprit du manga. Parce que pour nous, on voulait faire du manga, mais l'Afrique, ça se découvre en couleur. Donc on pouvait pas le faire autrement qu'en couleur.
Et effectivement, ça rend vraiment très très bien. D'autres projets à venir chez Dashikrai ?
Exactement, là je peux pas trop en parler, mais en 2023 on aurait deux projets qui devraient sortir, et ensuite 2024 on a quatre projets qui vont sortir, de la BD, du comics, du manga classique, et d'autres projets qui devraient pas tarder, donc n'hésitez pas à suivre le projet.
On va finir avec la petite question rituelle que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as une utopie, dystopie favorite, alors que ce soit en peu importe le support, à partir du moment où il y a des dessins dedans?
Alors là j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Il y en a une qui parlerait à tout le monde, c'est Gunm. Gunm, clairement, niveau dystopie, on peut pas faire mieux. Et sinon après je pense aussi à Berserk, mais parce que j'ai été traumatisé par l'éclipse.
Effectivement, de bonnes références. Ouais, Berserk a conseillé un public averti, de toute façon. Merci à toi, Maxime.
Merci, Sébastien.
Et oui, effectivement, Berserk a réservé aux âmes les plus aguerries. C'est un petit peu. C'est, je vais pas dire bourrin parce que c'est pas ça le terme, mais c'est vraiment sanglant et exigeant. Et ça fait pas mal réfléchir. Vous l'avez vu, hein, alors j'ai influencé aucunement les gens que j'ai interviewés, mais certaines œuvres reviennent, que ce soit Gunm, que ce soit Akira, que ce soit Psychopass, ce sont, à n'en pas douter, des valeurs sûres de l'utopie ou de la dystopie en manga. Les gens se sont vraiment tournés vers le manga dès qu'ils me parlaient d'utopie, dystopie. Est-ce qu'il y a quelque chose à y voir? Je ne le sais pas. That's all, folks. Vous venez de l'entendre, c'est pour qui annonce la fin de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie sur cette rétrospective de l'Angers Geek Fest 2023. Encore une fois, je remercie les organisateurs de nous avoir permis à la radio d'aller d'aller les voir, ces gens, de pouvoir avoir créé nos émissions et de pouvoir pu faire ces interviews. J'ai encore pas mal de matière que je pourrais vous faire découvrir très prochainement. Il y en aura un petit peu sur toutes les prochaines émissions. C'est bien parce que ça permet de continuer en fait de vivre cet Angers Geek Fest un petit peu à rebours. Peut-être que je pourrais même tenir jusqu'au prochain. Bref. Dans quelques instants, vous pourrez retrouver cette émission sur le podcast, enfin le podcast de cette émission sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, même si je n'y suis pas super présent. Mais promis, je m'y attelle et je vais m'y remettre. Et on se retrouve dans 15 jours pour de nouvelles lectures. Et n'oubliez pas de lire en attendant, il paraît que ça rend intelligent.
Ah bah vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? C'est fini. Rentre chez toi. Nothing ever felt right.